Donc il faut que je vous parle de ce sixième jour dans lequel nous sommes, puisque nous sommes le sixième jour selon le rythme des jours de la création. Alors vous savez que le jour sixième, c'est un jour très important. Dieu y a accompli deux œuvres créatrices, celle des animaux et celle de l'homme. Homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ce sixième jour sera malheureusement aussi le jour de la tentation et de la chute. Bon, employons le mot chute, parce que c'est le mot habituel, même si j'aime pas trop cette image. En tout cas, de la transgression. Saint Jean, dans le récit de la Passion que nous entendrons tout à l'heure, précise que il a une expression typique en grec, il dit « in paraskevi », ce qui était d'ailleurs le vieux nom latin dans les bréviaires, la paraskève. Alors ça désigne le jour préparatoire à la fête de Pâques, la veille. Ce jour, il commence donc au coucher du soleil du jeudi soir, par la messe de la Sainte Cène, et il s'achèvera ce soir au coucher du soleil, qui est l'heure de l'ensevelissement de Jésus, puisque vous savez, l'Évangile dit « le Shabbat commençait à briller », c'est ce moment où on allume les lampes et on commence, et en plus ce Shabbat était particulièrement saint, puisqu'il coïncidait avec la date de la fête de Pâques, ce qui en faisait un jour d'une solennité et d'une sainteté tout à fait particulière. Donc il fallait impérativement que dans l'heure qui précède le coucher du soleil et la nuit, tout soit plié, rangé, préparé et en état. Durant cette journée, et on l'a vécu depuis hier soir, puisque notre procession reposoire était symboliquement notre sortie du Cénacle et notre venue au jardin de Gethsémani, cette journée, en fait, le Christ n'agit plus. Ou pour être exact, il n'agit que par passivité volontaire. On a l'impression qu'il laisse faire, pour ne pas dire qu'il se laisse faire. Mais je vous ai dit, dans ce laisser-faire apparent, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui décide, c'est lui qui réalise. Extérieurement, il est livré aux mains des méchants, des impies, comme dit l'oraison de ce jour. Mais en étant livré, on va voir qu'il retourne de l'intérieur, et c'est lui qui accomplit. Mais ce qui est pour nous difficile à saisir, justement, c'est qu'il va accomplir ce mystère, alors qu'apparemment il ne fait rien, par passivité. Ce qui vous explique pourquoi il ne peut pas y avoir aujourd'hui de célébration eucharistique. C'est pas possible. On ne peut pas célébrer la messe. Bon, le Saint-Père a dû donner une dispense tout à fait exceptionnelle en Italie pour les victimes du tremblement de terre. Parce que normalement, aujourd'hui et demain, ce sont deux jours où nous ne pouvons absolument pas célébrer l'Eucharistie. Le Christ est dans un état de passivité totale, cloué à la croix ou couché au tombeau. Donc il nous faut accepter, nous, ce côté aliturgique, un peu déroutant et surprenant pour nous, du vendredi et du samedi saint. Donc la liturgie que nous allons célébrer cet après-midi, à l'heure même où le Christ est mort sur la croix, la liturgie nous demande de célébrer ça donc à 3 heures de l'après-midi, ce qui correspond à la 9e heure, qui est l'heure où Jésus va mourir sur la croix, ne peut pas être une liturgie eucharistique, elle est radicalement différente. Et il faut accepter que ça ne soit pas une messe, ça ressemble à autre chose. Mais si ça n'est pas une messe, ça ne veut pas dire que ça n'est pas efficace et qu'il ne se passe pas des choses. Il va même s'en passer de très très intenses et de très très fortes. L'Eucharistie, nous l'avons célébrée hier. Hier soir, nous avons déjà communié au corps et au sang livré de cet après-midi. Nous avons déjà communié. Et c'est bien parce que nous avons communié par anticipation à ce Christ qui, par sa mort, détruit la mort, que nous allons, nous, pouvoir traverser l'heure particulièrement terrible et redoutable de cet après-midi. Vous allez voir la liturgie d'abord, silence. Normalement, le silence règne partout, dans les lieux, dans la maison, on essaye en tout cas. Et la liturgie elle-même se fait silencieuse. Vous allez voir, les prêtres vont rentrer en silence. Il n'y a pas de chant d'entrée. Il ne peut pas y en avoir. Ils vont, l'église, vous avez vu, j'allais dire, le bâtiment lui-même est devenu silencieux. Il n'y a plus de cierges, il n'y a plus de nappes, il n'y a plus d'icônes, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien. Que la table d'autel nue, qui est comme le Golgotha. Demain, ce sera le tombeau. Et vous allez voir, les prêtres vont se prosterner de tout leur long devant l'autel en silence, sans un mot. Geste extrêmement fort. Et puis, d'emblée, il y a une oraison, et on va commencer la liturgie de la parole. Alors, cette liturgie de la parole est extrêmement importante, puisque c'est elle, par la proclamation de l'Écriture, qui nous rend présents au mystère. Là encore, il faudrait que je fasse tout un petit speech sur ce que c'est réellement que la proclamation de l'Écriture en liturgie. C'est quelque chose de redoutable. Je vous renvoie au chapitre 4 de Saint Luc, Jésus à la synagogue de Nazareth. Bon, c'est un épisode que vous connaissez bien. Jésus vint donc à Nazareth où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra à la synagogue le jour du Shabbat et il se lève pour faire la lecture. On lui tend le rouleau du prophète Isaïe. Il tombe sur le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle, etc. » Donc vous imaginez, le Verbe de Dieu, celui qui est la parole, en train de prononcer avec son gosier humain, dans les mots d'une langue humaine, la parole de Dieu. On n'est plus avec de l'encre sur du parchemin. On est tout d'un coup projeté, c'est la voix même de Dieu qui parle. Puis il roule le livre, silence. Et il faut toujours le temps de silence. Et tout le monde attend ensuite le sermon, le fameux commentaire. Et le grec de Luc dit exactement, et c'est malheureusement mal traduit en français, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie dans vos oreilles. » Comprenez ce que ça veut dire? Vous êtes passé du mémorial d'encre sur le support à la réalité vivante de quelqu'un qui vous parle. Or, la parole de Dieu, jamais ma parole ne descend sur la terre et ne remonte qu'elle n'ait accompli ce qu'elle dit. Isaïe. Donc, lorsque vous proclamez la parole dans une célébration liturgique, c'est réellement Dieu qui parle. C'est réellement Dieu qui parle. Et c'est manifesté donc de manière tout à fait solennelle pour la proclamation de l'Évangile, par le ministre ordonné, diacre ou prêtre, et normalement, dans le rituel, le livre des évangiles est accompagné des flambeaux et de l'encens, vous l'avez vu hier soir. Or, quand dans la liturgie, on met flambeaux et encens, on désigne qu'il y a présence réelle de Dieu. Le livre des évangiles, seul que vous pouvez poser sur l'autel, c'est réellement le Christ. Donc chaque fois qu'il y a liturgie de la parole et qu'il y a proclamation de la parole dans l'Église, faisons extrêmement attention. C'est Dieu lui-même qui parle. Et si j'écoute dans la foi, l'Écriture s'accomplit dans mes oreilles. Donc cet après-midi, la liturgie de la parole que nous allons entendre, et notamment le récit de la Passion, nous y serons. Dans la Passion. C'est pas ailleurs. Alors la liturgie a choisi trois textes pour nous introduire et nous mettre au cœur de la réalité du mystère du Vendredi Saint. Ce que nous célébrons cet après-midi, c'est l'unique sacrifice offert une fois pour toutes sur l'autel de la croix par le Christ qui est à la fois le grand prêtre et la victime. Il est à la fois le prêtre, la victime et même l'autel d'une certaine manière. Donc les trois lectures que nous allons entendre, la première du livre d'Isaïe, le quatrième chant du serviteur souffrant, Isaïe 52, verset 13, jusqu'à 53, verset 12. C'est la victime, c'est l'agneau. Quelque part, vous êtes renvoyé à l'offertoire de la messe. Il fallait qu'il prenne une chair humaine pour l'offrir à Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui porte ou qui enlève. Vous pouvez employer les deux, enfin vous pouvez traduire le verbe grec dans les deux sens. Et vous savez que la phrase, c'est Jean-Baptiste, dès le début, au bord du Jourdain, qu'il désigne en disant « C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et c'est vrai que lorsque vous lisez, et même aujourd'hui, quand un de nos frères juifs lit le quatrième chant du serviteur souffrant dans Isaïe, et qu'ensuite il lit le récit de la passion dans les évangiles, il ne peut pas ne pas être tétanisé littéralement sur place. Parce que le Christ est réellement l'incarnation de ce qu'Isaïe avait prophétisé. Et dont les racines viennent, je vous ai dit, de cette exégèse typiquement juive de l'offrande d'Isaac. Alors, il porte par amour, lui qui est innocent, tout le péché du monde. Mais par amour, il s'offre lui-même. Il consent. Alors, il s'offre lui-même, soyons clairs, non pas exactement à notre place. Ça, c'est l'interprétation, vous savez, de Caïphe. Il faut qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Dernière de dire, Jésus aurait tout fait, puis moi, j'aurais plus rien à faire. C'est pas tout à fait ça. En fait, il s'offre pour nous. C'est pas la même chose. S'offrir à la place d'eux ou s'offrir pour. Il s'offre pour nous. C'est-à-dire, en fait, qu'il va ouvrir une voie, un chemin, une victoire que nous pourrons recevoir et qui pourra faire son travail en nous. Et moi, à mon tour, je vivrai aussi tout au long de mon existence ma propre Pâque, mon propre passage, ma propre sorte. Alors, Jésus est chargé, livré aux mains des impies, qui jettent dessus toute leur violence, et c'est toute l'image du serviteur souffrant d'Isaïe, sur lequel se déchaînent toutes les forces. Mais en même temps, comme il est de l'intérieur celui qui assume et celui qui consent, il retourne. Il est celui qui porte et celui qui enlève dans son consentement. Voyez-le. Et il le peut puisque le péché n'a aucune prise en lui. Il vient, le prince de ce monde, en moi, il n'a rien. C'est clair. Nous, c'est ça le problème, c'est que nous, il a des choses, le prince de ce monde en nous. Il a des complicités, il a des entrées, il a des coins, il a des machins. Bon, résultat, je craque, je me casse la figure. Jésus, non. C'est le juste, c'est l'innocent. Donc le véritable sacrifice spirituel consiste à faire la volonté du Père par amour et dans l'amour. Méfiez-vous des lectures doloristes de la Passion. Oui, c'est par ces souffrances que nous sommes sauvés. Mais pas parce que c'est des souffrances tout court. C'est par l'amour qu'il est capable de mettre dans la situation. La souffrance en elle-même n'a jamais sauvé personne. C'est l'amour qui sauve. Alors, le déchaînement de souffrance et d'injustice qui déferle sur le Christ aujourd'hui ne fait que manifester de manière exceptionnelle l'intensité d'amour dans lequel vit Jésus. C'est un révélateur Mais nous, il ne faut pas nous tromper. C'est l'amour qui sauve, c'est pas la souffrance. Même si c'est dans la souffrance que peut se révéler justement la vérité, comme la foi, vous savez, qui est éprouvée comme l'or au creuset. Donc nous, ce que nous cherchons, c'est pas la souffrance. Ce que nous cherchons, c'est à aimer. Même si ça fait mal, d'accord. J'ai jamais dit qu'aimer, c'était facile. Vous l'avez entendu hier soir, « Celui qui m'aime garde mes commandements, comme moi j'aime le Père et je garde ses commandements. » Et en fait, nous commençons à voir quel est le véritable pèlerinage. Sortir de sa volonté propre, celle qui a finalement perdu Adam au paradis, il n'en a fait qu'à sa tête, sans écouter la parole et sans se mettre dans l'obéissance aux commandements. Pour entrer dans la volonté du Père, manifesté par sa parole. Donc, première lecture, le mystère de l'agneau, le serviteur souffrant. Il fallait une victime, nous l'avons. Pour offrir un sacrifice, il faut une victime, il faut un prêtre. Alors là, on va retrouver notre fameuse lettre aux Hébreux. Vous commencez à être un petit peu familier maintenant de la lettre aux Hébreux, qui habite beaucoup notre liturgie de la Semaine Sainte. Bon, un texte est tout à fait étonnant, hein. Assez exceptionnel, assez extraordinaire, dont l'auteur manifestement est un juif qui connaît les Écritures sur le bout du doigt, et qui s'adresse probablement à d'anciens prêtres du Temple qui sont passés à la foi chrétienne et qui sont peut-être un petit peu perdus parce que justement il n'y a plus la grande liturgie du Temple et tout ce qu'elle signifiait, et qui cherchent à comprendre comment... Vous voyez ? Et comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux va reprendre point par point tout ce qui fait le culte, la liturgie, le sacerdoce, et montrer comment tout est accompli dans le Christ. Bon, c'est avec une lecture extraordinaire, hein, il connaît. Donc là, nous allons entendre un fragment du chapitre 4 et du chapitre 5, qui va nous présenter justement Jésus grand prêtre. Jésus est l'agneau de Dieu, la victime, mais il est aussi le prêtre. Le grand prêtre parfait, selon l'ordre du roi Melchisédek. Alors l'auteur va citer, pour finir, le fameux verset de Psaume, « Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. » Un sacerdoce éternel, qui préexiste même au sacerdoce d'Aaron et à l'alliance de Moïse. Là, ça nous renvoie, si vous voulez, dans le mystère d'Eucharistie dont je vous parlais, à l'Eucharistie, rendre grâce à Dieu, et à l'eulogie, c'est-à-dire la bénédiction. Vous voyez le double mouvement des mains, tendu vers Dieu pour rendre grâce, et abaisser les hommes pour bénir. C'est tout le ministère du prêtre. Pris d'entre les hommes pour intercéder pour le peuple, et qui est en même temps médiateur de la bénédiction divine vers le peuple. Le prêtre, c'est un canal. Entre le peuple et Dieu. Ça ne fait que transiter. Lui n'y est pour rien. Il essaye simplement d'être à peu près transparent au mystère. Pas si simple que ça, d'ailleurs. Mais bon, se laisser traverser en permanence. Donc, lui, Jésus est le grand prêtre qui offre sa chair, dans sa chair, l'unique sacrifice. Une fois pour toutes. Il n'y aura jamais besoin de le renouveler. Comme dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, sinon il aurait fallu que Jésus s'offre plusieurs fois depuis la fondation du monde. Non. Et parce qu'il s'offre lui-même, volontairement et par amour, il traverse jusqu'au cœur de Dieu. C'est pour ça que l'auteur de la lettre peut dire qu'il est ce grand prêtre qui est rentré dans le sanctuaire non fait de main d'homme, qui est le cœur de Dieu lui-même. Alors je vais y revenir, nous allons tout à l'heure, dans la liturgie, déployer ce mystère sacerdotal. Nous allons être réellement grands prêtres pendant cette célébration. Tous, ensemble, articulés chacun les uns avec les autres. Le troisième texte, bien sûr, c'est le récit de la Passion. Alors vous savez que la proclamation de l'évangile de la Passion se fait toujours de manière très particulière, sans acclamation, sans introduction, comme on l'a fait pour le jour des rameaux. Deux fois dans la ligne liturgique, nous entendons la Passion. À l'entrée à Jérusalem, parce que c'est là que nous allons, et aujourd'hui, parce que nous y sommes, c'est l'heure. Bon. Autrefois, la lecture était très... Enfin, le prêtre qui tient la place du Christ se tient à l'autel. Autrefois, deux diacres. Bon, maintenant, c'est des personnes, souvent, bon, qui font le narrateur et les autres personnages. Mais justement, vous y êtes. Et aujourd'hui, cette écriture s'accomplit dans vos oreilles. Vous êtes littéralement transporté, ou l'événement est littéralement transporté jusqu'à vous. Il n'y a plus de séparation de temps. Nous y sommes. Nous le vivons. Alors, nous allons entendre le récit de la Passion selon saint Jean. J'aurai énormément de choses à dire. Je ne sais pas ce que j'arriverai à vous dire dans les petits mots d'introduction. Mais vous écouterez attentivement ce texte. Et vous rendrez compte à quel point le Christ, tel que saint Jean le voit dans sa passion. N'oubliez jamais, c'est le disciple que Jésus aimait. Celui qui se tient dans le sein de Jésus. Celui qui voit toute chose de l'intérieur du mystère. Ça n'enlève rien à la réalité des actes qu'il vous décrit. Il vous dit, Pilate le fit flageller. Vous aurez la description des outrages. Vous aurez cette icône hallucinante quand il mène Jésus dehors et vous dit, voici l'homme. Et vous avez devant vous l'icône de la nature humaine, l'image et la ressemblance de Dieu, atrocement défigurée par le péché. Il vous dira, il fut crucifié. Et en même temps, vous ne... la souveraine majesté du Christ. Qui fait que toute cette masse de violence, d'injustice, s'écroule littéralement autour de lui en permanence. Et manifeste à quel point elle n'a pas de réelle consistance. Et vous ferez bien attention, mais ça peut-être j'y reviendrai dans l'homélie, je ne sais pas encore comment ça va sortir. Jean ne vous dit pas que Jésus meurt. Vous chercherez désespérément le mot « mort » ou même le mot « expiré ». Il vous dit « il livra l'Esprit ». Et l'Esprit, ce n'est pas son âme, hein, c'est l'Esprit Saint. Et le verbe « livrer », c'est-à-dire transmettre. C'est pour nous, chrétiens, après des siècles de lecture biblique, que l'expression « rendre l'esprit » est devenue synonyme de mourir. À l'époque de Jean, jamais personne n'aurait employé cette expression pour parler de la mort de quelqu'un. Ce que Jean vous dit, c'est « il livre l'esprit », c'est-à-dire « il recrée le monde ». Il recrée le monde. C'est l'esprit qui tournoyait sur les eaux du commencement. Et c'est bien pour ça qu'à cet instant où le Christ meurt, l'univers ne part pas en morceaux, mais au contraire est rendu à la vie. Alors, ce qui vient d'être dit dans ces trois textes va se déployer dans la suite de la liturgie. J'ai dit, nous allons être grands prêtres. On ne célèbre pas la messe qui est le sacrifice, mais pourtant on va célébrer l'office sacerdotal du Christ. Pris entre les hommes pour intercéder auprès de Dieu. Eh bien, on va intercéder. Et pour de bon, selon un rite extrêmement solennel et particulier. Cette fameuse grande prière sacerdotale. Le frère Bernard va proclamer d'abord l'intention. Prions pour, etc. Et puis ensuite, on vous dira... Alors je dirais peut-être prions tout court ou prions à genoux, parce que j'ai tellement l'habitude de la formule, je ne sais pas celle qui va sortir. Flectoamus genua, fléchissons les genoux. Et alors là, tout le monde tombe à genoux, en silence. Et on reste à genoux en silence. Ça, c'est le geste de la supplication intense. L'intention qui vient d'être proclamée, vous la faites vôtre. Vous tombez à genoux en silence et vous la projetez littéralement vers Dieu dans le silence de votre cœur, comme si vous en étiez pénétré. Y compris le prêtre. Là, on est tous pareils. Hein. Et puis ensuite, on se relève et le prêtre, à l'autel, main étendue dans le grand geste de la prière, dit ou chante, là je pense que je vais dire, pas la force de chanter toutes les oraisons aujourd'hui, une oraison auquel vous répondez solennellement « Amen ». Et vous allez voir, cette longue prière va englober absolument tous ceux pour qui le Christ offre sa vie. En fait, toute l'humanité. Vous chercherez désespérément quelqu'un qui ne soit pas pris en charge. Alors, si vous trouvez quelqu'un, prévenez tout de suite Jésus, et surtout l'Église, qu'il faut rajouter une intention. Mais vous verrez, tout va se dérouler. Alors, bien sûr, vous allez partir du noyau de l'Église, parce qu'elle est le germe du salut déposé au cœur du monde. Et plus vous allez voir l'onde concentrique d'amour qui, depuis l'Église, va englober ceux qui sont de plus en plus loin, pour atteindre jusqu'à ceux qui sont les plus loin, les plus perdus, ou qui ne savent même rien, ni de Dieu, ni du Christ. Vous voyez ? Mais il faut partir de ce noyau, et par onde concentrique, la charité de Dieu qui habite l'Église va finir par englober absolument l'univers entier. Et soyez sûrs aujourd'hui que vous êtes exaucés. Vous êtes le Christ en croix, intercédant pour le salut de l'humanité. Vous demandez au Père ce que le Père désire par-dessus tout. Comment voulez-vous qu'il le refuse ? Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Si deux ou trois se mettent d'accord pour demander quelque chose sur la terre, c'est accordé. Si vous demandez en mon nom le Père, vous y croyez ? Je vous pose une question. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous êtes cet après-midi à un rite ? Bon, parce qu'on a toujours fait comme ça. Parce que... Ou est-ce que vous êtes réellement le peuple sacerdotal uni à son grand prêtre qui a pénétré dans la tente plus haut que les cieux, qui touche au cœur de Dieu et qui est capable de demander réellement le salut du monde ? Est-ce que vous y croyez ? Et vous, mes sœurs dominicaines, allez donc reprendre le quatrième mode de prière de Saint-Dominique et demander à Saint-Dominique s'il y croyait. Je vous ai fait la retraite là-dessus il y a quelques années, vous avez quelques fiches. Ou quelques cassettes en concert, je ne sais. Non, vous n'avez rien. Nous reprendrons. Il faut que je termine. Bon, alors, la grande prière, hein, vous allez intercéder de toute votre force. Le jour de votre baptême, vous avez reçu l'onction du crème. Vous êtes prêtre, prophète et roi. Alors, bien sûr, la prière articule le ministère ordonné du prêtre, qui représente le Christ grand prêtre, tête du corps, mais vous êtes le Christ, le corps qui est l'Église, et qui est uni à sa tête et qui participe à son ministère. Et c'est comme ça que s'articulent nos paroles et nos gestes. Mais c'est bien parce que nous sommes tous ensemble que cette prière est prodigieusement efficace. Et que le monde n'est pas encore parti en morceaux et en pièces détachées, et que malgré toutes les conneries qu'il est capable de faire, il n'y a pas d'autre terme, il est encore vivant. Il devrait être mort depuis longtemps. Donc le déploiement de la prière sacerdotale, la deuxième lecture. Et puis il y a le déploiement de la passion. Parce qu'il faut communier aux souffrances. Alors comment est-ce qu'on va communier aux souffrances du Christ ? À ce qui est accompli sur la croix. Je dis, la lecture de la passion selon saint Jean, en fait, le récit est triomphal. Ce que Jean vous raconte, c'est la victoire du Christ. Et la croix devient l'instrument de la victoire. Alors je sais, la croix, c'est l'horreur. C'est un instrument de supplice, monstrueux, qui provoque une des morts les plus atroces qui se puissent imaginer physiologiquement, qui en plus n'était utilisée que pour les esclaves, c'est-à-dire ceux qui n'avaient même pas d'identité humaine. Je vous rappelle que l'esclave n'a pas d'identité humaine. Pour le droit romain, l'esclave est un objet domestique. Vaguement animé peut-être, mais un objet domestique quand même. Et que pour la tradition juive, c'est le symbole même de la malédiction. Maudit soit celui qui pend au gibet. Il est absolument impensable que le Messie puisse être pendu à la croix. Sauf si vous pensez que, justement, Dieu l'a fait pécher pour nous. et qu'il a pris sur lui. Alors là, vous comprenez, oui, ce que ça veut dire. C'est pour ça que dans l'iconographie traditionnelle, la croix, dans les icônes, est toujours peinte en couleur sombre, en noir, gigantesque. Elle est le péché du monde qu'il porte. Et parce qu'il consent, et parce qu'il retourne de l'intérieur dans son amour, il est capable de faire de l'instrument du supplice et de la malédiction, l'instrument de la victoire et la source de bénédiction pour le monde. Et de faire de l'arbre de mort, l'arbre de vie du paradis, dont il est lui-même le fruit dont nous mangeons, pour avoir en nous la vie éternelle. Et il y a aussi dans la tradition chrétienne une magnifique tradition de représentation de la croix arbre de vie. Les dominicains connaissent tous celle de Saint Clément à Rome, puisque l'église a été confiée à des frères dominicains. La mosaïque est antérieure à l'ordre, elle est du XIIe siècle. Et vous avez ces grands rinceaux de vigne qui jaillissent du pied de la croix sur lequel vous avez des colombes. L'arbre de vie. Donc il nous faut manifester ce triomphe de la croix. Et donc une fois que la grande prière sacerdotale est accomplie, la liturgie extrêmement austère, très dure, du Vendredi Saint bascule. Et là, la liturgie romaine a adopté un rite typiquement oriental, avec toute l'exubérance, j'allais dire lyrique et symbolique, de la liturgie orientale. On bascule en liturgie de Jérusalem, en monde syriaque et araméen, avec tout ce qu'il peut avoir On va voir réapparaître des étoffes somptueuses qui vont draper la croix, des rouges flamboyants, brocardés d'or, si possible. Bon, on prendra ce qu'on a, hein, de nous. Mais bon. Bon. C'est l'heure du Fils de l'homme, où il est glorifié, où l'amour est vainqueur, où la mort est anéantie, et où la croix supplice devient l'arbre de vie. Alors, cette croix, elle va être présentée. Alors, elle va arriver voilée, voilée de rouge. Et là, vous allez entendre, je ne chanterai que trois strophes, le poème original est beaucoup plus long, un poème syrien, qui a été traduit en latin, mais le refrain a même encore gardé un refrain grec. Aios Theos, Dieu saint. Aios Ichiros, Dieu fort. Aios Athanatos, Dieu immortel, aie pitié de nous. Et vous entendrez, c'est tout à fait unique dans la liturgie de l'Église, c'est la voix du Père que vous entendrez. Que t'ai-je fait, ô mon peuple, pour qu'à ton Sauveur tu fasses une croix? Et vous entendrez l'amour blessé du Père, qui va énumérer tout ce qu'il a fait pour son peuple. Tout. Et qui demande à chaque fois, est-ce que c'est pour cela qu'à ton Sauveur tu fasses une croix? C'est la seule fois dans la liturgie d'Église romaine où vous entendrez quelque chose de cet ordre-là. Où tout d'un coup vous entendrez la voix du Père et où vous l'entendrez son amour blessé, qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais qui pose cette question à la responsabilité de l'homme. C'est redoutable. On préférerait se prendre une bonne paire de gifles, comme un gamin qui a fait une faute. Non. Donc le cri d'amour de Dieu. Il n'y a pas de place pour la colère ou la vengeance. Toute la liturgie de la Semaine Sainte nous met en présence de l'amour de Dieu, un amour qui est infini, pas de commencement et pas de fin. Un amour qui est absolu. Il n'est jamais mêlé d'autre chose. Et un amour qui est inconditionnel. Quoi que j'ai pu faire, Dieu m'aime. Quoi que j'ai pu faire, Dieu m'aime. Et jusqu'au bout. Alors une fois que vous aurez entendu ça et vous serez passé par cette redoutable expérience des impropères, on n'en sort pas indemne, hein, du cri d'amour blessé de Dieu. À ce moment-là, on dévoilera la croix. Et on montrera le bois de la croix par lequel le monde est sauvé et par lequel la joie est revenue dans le monde. Le monde est triste parce qu'il sait qu'il va à la mort. Il peut s'étourdir de tout, s'enivrer de tout. Il ne peut pas oublier qu'il va à la mort. et ses plaisirs ont des goûts de cendre. Et là, tout d'un coup, nous savons qu'il n'y a plus de mort. Elle est morte. Et que tout d'un coup, je sais que moi, je ne vais plus au néant. Je vais vers la vie. La joie est revenue dans le monde. La vraie. La certitude que Dieu m'aime et que parce qu'il m'aime, je suis vivant pour toujours. Et viendra donc le rite de l'adoration de la croix. Adoratio crucis. Bon. Alors, adorare en latin traduit le proskinéo grec, c'est-à-dire le geste de se prosterner le front contre le sol. C'est le verbe employé dans l'évangile de la Samaritaine. La Samaritaine demande à Jésus où est-ce qu'il faut se prosterner. Proskinéo. Parce que c'est à Jérusalem. Et en latin, on traduit où est-ce qu'il faut adorer. Adorare. Et le verbe désigne d'abord le geste. Dans le vocabulaire liturgique latin, le verbe adorare désigne toujours une attitude corporelle vis-à-vis d'un objet matériel dans le culte. Alors que pour nous, on aurait tendance à lui donner un sens extrêmement éthéré et désincarné. Et donc, je veux dire, notre manière à nous de communier à la victoire du Christ sur la croix, c'est justement de venir nous prosterner devant cette croix et de l'embrasser, de poser le geste de l'ad oratio, ce qu'on pourrait presque traduire par apporter un baiser. Os oris, la bouche, est à la racine de tous ces mots. Orare, adorare, osculum, baiser. Et c'est dans ce geste-là que se noue réellement le mystère du vendredi saint. Où j'embrasse avec amour la croix où par amour mon sauveur m'en est livré à jamais. C'est le sommet de la liturgie du vendredi. Alors nous, on fait une forme restreinte vu notre espace, mais imaginez dans la liturgie de la Rome antique où le pape partait pieds nus, encensoir en main, depuis le Latran jusqu'à la Sainte Croix à Jérusalem pour ce grand rite. C'était absolument seul. La seule fois de l'année où vous voyez le pape pieds nus avec un encensoir en main. Alors, la liturgie actuelle rajoute ensuite un rite de communion. Personnellement, je trouve qu'il n'est pas nécessaire. Si on a vécu tous les rites qui ont précédé, et si vous avez vécu votre communion du jeudi saint avant, vous y êtes. Bon. Aujourd'hui, donc, on met un rite de communion. Célébrera. Mais il y a quelque part, bon, la communion au corps victorieux du Christ, vous l'avez déjà faite hier soir. Et c'est bien parce que vous l'avez faite que vous avez pu vivre l'office qu'on va vivre cet après-midi. À Rome, on donnait la communion le soir du Vendredi Saint parce que beaucoup de pèlerins qui venaient à Rome en pèlerinage avaient loupé la messe in cena domini. Et donc, il fallait qu'ils communient. Il faut bien qu'il y ait une communion eucharistique. Mais la liturgie de l'Église a bien compris que cette communion eucharistique, elle était par anticipation le jeudi soir. Et c'est bien pour ça qu'on communie à ce qui était consacré hier soir. Ben, y a encore cette trace-là. On ne peut pas consacrer aujourd'hui. On ne reconsacrera que dans la nuit de Pâques. En fait, on saute de la liturgie anticipée in cena domini, du jeudi soir, à la liturgie éternelle de la nuit de la vigile de Pâques. Je ne boirai plus du vin de la vigne avant d'être entré dans le royaume de Dieu, dit Jésus. C'est exactement ça que manifeste la liturgie. Entre les deux, il y a ce grand saut, avec l'office redoutable de cet après-midi, et puis le grand silence du tombeau de demain, mais dont je vous parlerai demain matin. Je vais m'arrêter là, pour qu'on ait le temps de souffler et de se préparer à célébrer.